Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre régulièrement. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de JT Sport. Ce soir, on fera un focus sur l'Ande et sur le rugby. Et pour m'accompagner, j'aurai avec moi Gauthier Delhomé. Salut Gauthier.
Salut Geoffroy. Oui, une émission de JT Sport spéciale pastis et roucoulettes et caramel et chistera avec ses intervenants.
Alors, puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous.
Soyez rassurés, ils sont au garde à vous puisqu'on abordera le Phénix avec Marine et Hugo. Avant de laisser Arnaud et Florent parler un peu balle ovale, il sera question du Stade Toulousain et aussi évidemment de l'exploit du 15 de France au Pays de Galles. On jettera un œil à la Pro D2 et notamment les bons résultats de Colomiers. Et bien entendu, on n'oubliera pas les autres sports avec notre traditionnel flash sport présenté par Mod. Et on ouvre ce 11e numéro avec la rubrique Pastis et Roucoulette.
On a beaucoup de respect pour cette équipe, on a beaucoup de respect pour tout ça, mais le meilleur respect qu'on va avoir, c'est de les défoncer, quoi.
Colossal, gigantesque, fantastique, phénoménal.
Le Phoenix a mis fin mercredi dernier à son début d'année compliqué en Lidl Star League. Après avoir buté contre le PSG et Saint-Raphaël, les hommes de Philippe Gardant se sont imposés avec la manière contre Tremblay, avec 36-27. Une performance qui fait du bien, n'est-ce pas Marine ?
Ouais, exactement, Gauthier, c'est la première victoire du Phoenix en 2020. Et comme tu l'as dit avec la manière, hein, voilà, ils sont imposés avec plus 11. Il fallait se relever du match contre Saint-Raph où l'équipe ne marque que 18 buts, c'était vraiment important. Là, elle en marque deux fois plus, c'est sûr que ça fait du bien, même si bon, il y a quand même un petit bémol de Philippe Gardant.
On était bien dans l'état d'esprit, bien sur ce qu'on avait voulu mettre en place dans la semaine. Le fait de ne pas avoir aussi des spécialistes arrière-droit chez eux, ça nous a aussi un peu soulagés. Et c'est vrai que j'ai encore les 10 dernières minutes, il me reste un peu de travers parce que c'est un peu du n'importe quoi. C'est un peu dommage parce que ça gâche un petit peu le truc. Mais bon, il faut que je respecte ce que je leur avais dit au début du match, au briefing. Je leur avais dit, moi, je veux gagner, beau ou pas beau, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment 2 points qu'il nous faut.
Ouais, et du coup, le Phoenix, il a su prendre ses 2 points avec un jeu rapide. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'équipe, elle a su se passer de son demi-centre Luke Staines. Voilà, il a été blessé au genou. Il y a eu pour cela un gros boulot de Maxime Gilbert qui normalement joue arrière et là qui a pris beaucoup de sérieux à faire l'intérim au poste central. Voilà, il a fait avec sa propre personnalité, mais ça a marché. Ils ont mis en place un jeu rapide au centre et après un décalage sur les ailes.
Oui, d'ailleurs, le meilleur buteur, c'est un ailier.
Ouais, exactement, Geoffroy, c'est Théo Jarry qui aligne quand même 7 buts sur 9 tirs, donc il fait une super performance. Théo, il a 19 ans, bientôt 20. Il fait partie du centre de formation et c'est la première fois qu'il joue autant. Il a joué 45 minutes. On écoute sa réaction tout sourire après match.
J'arrive pas à y croire, moi en marqué 7, je trouve que j'en ai certains avec un peu de chance, mais voilà, la chance ça se provoque, je travaille, je respecte tous les conseils qu'on me donne en entraînement, tout ce que je dois appliquer tous les jours, et voilà, il faut continuer à travailler encore et encore et pas lâcher. Là j'ai eu la chance de pouvoir jouer 45 minutes, après je mets pas la tête comme un ballon, je sais très bien que je prendrai ce que j'ai à prendre, je suis pas là pour aller plus vite que la musique. Je suis encore jeune, je suis encore au centre de formation de Toulouse, donc j'ai pas à prétendre à prendre la place de quelqu'un ou d'être meilleur que lui. Moi, je prends ce qu'on me donne, je travaille, je progresse, et c'est ce qui me fera peut-être arriver un jour dans le monde professionnel.
Théo Jarry, qui est donc au centre de formation, Marine, c'est une bonne cuvée cette année.
Ouais, exactement. En tout cas, ça, on a tout l'air. Par exemple, pour Théo, on sait qu'il est super bien entouré au Phoenix. Il peut compter sur les conseils de Nemanja Ilić ou de Gaël Tribion. Donc voilà, on se dit que dans un contexte comme ça, ça peut forcément faire des bons joueurs équilibrés. Il y a par exemple aussi le gardien Théo Géin, qui est très prometteur, je trouve. Il a été aligné au match aller contre le PSG. Il a arrêté des missiles des deux Karabatic. Donc des joueurs en formation qui font de belles performances comme ça, qui sont bosseurs, on a toujours envie d'y croire et de se dire que ouais, c'est très prometteur, c'est une cuvée prometteuse.
Et surtout, ces jeunes joueurs, ils font du bien aujourd'hui quand certains titulaires sont blessés.
Ouais, là c'est une période pas évidente pour le Phoenix. Philippe Gardant parle même de 15 jours de galère. Je vous épargne les gastro et les autres problèmes de saison, oui. Mais on a de rien. Mais on a l'épaule de Marcus Olsson qui est encore fragile, un coup c'est oui, un coup c'est non. Luke Staines et Milan Jovanovic qui sont blessés au genou. Pour l'anecdote, il y a Nori Benalima qui s'est pris une béquille à l'entraînement lundi, donc il sera certainement pas aligné mercredi. Donc finalement sur 3 arrières gauche, il y en a même pas un qui est complètement valide. Forcément, ça amène à faire des choix stratégiques un peu épineux. Par exemple, est-ce qu'on préfère avoir Luke Staines à 50% pour Chartres ou attendre pour l'avoir à 100%? Là, je rejoins Philippe Gardant sur le fait que c'est mieux d'avoir des joueurs à 100%, mais donc forcément, il faut tirer un peu sur ceux qui peuvent jouer. Et ça, au risque d'être le serpent qui se mord la queue alors qu'on n'est pas du tout au bout du championnat, quoi.
Alors, on avance hein, malgré tout dans le championnat. Il reste moins de 10 journées. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à se projeter ?
Alors non, pas encore, Geoffroy. C'est un peu tôt. En fait, Philippe Gardant parle même d'un triptyque important en ce moment. Je vous propose de l'écouter.
On a une étape importante là, ces trois matchs-là. Donc je vous parlais, puisqu'on a Ivry, donc Tremblay et donc Chartres. On avait ciblé plutôt aussi Saraf, mais on a fait vraiment un match de merde. Donc je veux dire, on est dans la phase là du mois de février-mars qui va nous dicter un petit peu les ambitions après quoi. Voilà. Mais le but, c'est effectivement de rester dans la position de quatrième.
Finir quatrième, Marine, c'est envisageable?
Honnêtement, Gauthier, ouais, enfin, comme l'a dit l'entraîneur, les deux prochains matchs seront une étape importante pour fixer les ambitions. Après, le Phoenix part quand même avec un avantage, celui d'avoir déjà joué son match retour contre Paris, alors que ses adversaires directs pour la quatrième, la cinquième place, par exemple, ils n'ont pas joué encore Paris. Pour les matchs contre Nantes et Montpellier, c'est plus des matchs bonus, c'est-à-dire que s'ils les gagnent, tant mieux, on vise le haut du panier, et sinon, bah, on va essayer de se maintenir. Donc je propose qu'on en reparle d'ici 2-3 semaines, et j'aurai certainement plus d'éléments à te proposer. Pour l'instant, ce qui compte, c'est de se concentrer sur Chartres, qui est une équipe bien équilibrée, et elle a pris des jokers médicaux, par exemple. Là, elle est sur 2 victoires consécutives, donc il va falloir être très attentif pour amener ces 2 points très importants à la maison, comme on dit.
Ah, merci, merci beaucoup, Marine. Oui, le Phoenix joue donc mercredi à 20h30 contre Tremblay. Ça se passe au Palais des Sports André Brouat. Hugo nous a rejoint dans le studio pour faire un point sur le championnat et le classement de la Lidl Star League.
Salut Gauthier, et donc on va commencer par un petit point sur le classement. Donc, comme d'habitude, Paris est leader tout à fait normalement, puisque quasiment un carton plein, c'est un carton plein véritablement, 32 points au championnat. Ensuite Nantes, deuxième avec 26 points. Derrière, on voit Nîmes avec 24 points, et c'est là que se fait le trou avec Toulouse, 4e, 20 points. 5e, Montpellier, 18 points, qui reste sur 3 défaites consécutives, ce qui est assez rare pour être souligné. Ensuite, 6e, Aix, 16e, avec 16 points, pardon. Donc on voit qu'il y a un véritable tir groupé, notamment pour les places européennes. Et puis bon, l'adversaire du Phoenix sera Chartres, et Chartres joue plutôt le bas de classement, donc le maintien, avec 12 points et une 10e place. En ce qui concerne les matchs à venir, on va donc maintenant passer à la journée de mercredi, et donc de belles affiches, avec notamment Aix-Ivry, un duel entre une équipe qui joue l'Europe et une équipe qui joue le bas de tableau. Nîmes-Dunkerque aussi, une équipe de Nîmes qui aura à cœur de défendre sa place sur le podium. Ensuite, Montpellier-Saint-Raphaël, ça sera vraiment le match crucial pour Montpellier pour savoir s'ils peuvent accéder finalement à une place en Champions League. Et enfin, le gros choc qui sera jeudi soir, donc avec Nantes contre le PSG. Et à savoir si Nantes fait l'exploit, peut-être, pourquoi pas, relancer le championnat. Et on espère, parce que là, finalement, on ne voit pas qui pourrait embêter Paris cette année.
Parfait, merci à vous, merci Marine, merci Hugo. Place au rugby maintenant, et c'est le moment pour nous de lancer la rubrique Caramel et Chistera.
Donc on se tait et on reste concentré sur ce jeu. On croit...
Et une actualité rugbystique plutôt dense, hein. Alors pour nous en parler, on accueille nos spécialistes en ovalie, c'est Florent et Arnaud. Salut Florent, salut Arnaud.
Salut.
Dimanche, les Toulousains ont retrouvé le top 6 grâce à leur succès 25-7 sur Montpellier et Ernest Vallon. Le Stade Toulousain est actuellement 6e avec 4 points d'avance sur les Clermontois et le MHR justement. En revanche, ils ont 2 points de retard sur La Rochelle qui est 3e. On peut souffler, hein, car les Rouges et Noirs ont pris le bon wagon lors de cette 16e journée de top 14. La victoire bonifiée de dimanche fait du bien aux esprits après la défaite frustrante au Racing, 30-27, lors de la précédente journée. Alors certes, l'essai du bonus a été offert par le centre érotais Serfontaine par une passe hasardeuse juste devant sa ligne, mais Arnaud, Florent, on peut dire que les Toulousains s'en sortent plutôt bien sur ce coup.
Ben ouais, comme tu le dis, c'est un match paradoxal sur le plan comptable, c'est absolument parfait, ils prennent le bonus, ils ne laissent pas de points défensifs à Montpellier, donc quand on a une lecture du score et du match comme ça purement sur le score, on peut se dire que c'était un match vraiment maîtrisé, et finalement ils ont quand même eu beaucoup de réussite, ils ont fait preuve d'énormément de réalisme, notamment en première période, ils marquent sur quasiment leurs 2 seules actions. Mais voilà, derrière, ils ont souvent été en souffrance. Ils ont vraiment été. Enfin, Montpellier a énormément manqué de réalisme. Ils ont manqué des essais tout faits. Et donc, on va dire qu'ils s'en sortent vraiment bien sur ce match, le Stade, quand même.
Oui, très bien même, parce que quand on était au Stade, on a pu voir sur les écrans géants en milieu de première période où on a vu simplement le taux de plaquage réussi par Toulouse. Et c'était assez faible. Pour à peine 20 minutes de jeu, il y avait déjà 90%. Donc, vous en doutez, on a fait notre petite statistique à la fin du match. Et on a regardé au niveau des plaquages réussis, on est à 80% de plaquages réussis sur l'ensemble de la rencontre. Alors, c'est un taux très faible. Normalement, en top 14, on tourne sur un ratio de 90-94. Et surtout, contre une équipe comme Montpellier, qui a des joueurs très puissants comme Stein, Osinadolo, qui a justement marqué un essai en force, comme on le connaît, évidemment. C'est son habitude. Pourtant, pour un ailier, il est très, très, très puissant. Il a fait mal à la défense toulousaine, justement. même s'il a plutôt été bien tenu par Tauzin, on pouvait voir souvent que Tauzin, il inversait son poste d'ailier pendant le match pour vraiment faire son 1 contre 1 contre Nadolo. Après, voilà, comme disait Arnaud, ils ont marqué à quasiment chacune de leurs occasions. Il y a vraiment un réalisme offensif qui est intéressant, malgré le fait qu'il manque du monde. Mais bon, ça, on ne le dira jamais assez. Tourne à destination égale moins de joueurs à Toulouse.
Ouais, on va dire que c'est ça le point positif. Ça permet à d'autres joueurs de se montrer. On a vu Pagès qui joue quasiment jamais, qui a fait plutôt un bon match, qui a été inspiré, qui a l'initiative de plusieurs essais et de beaux mouvements. C'est une bonne chose. Je pense aussi à Placine, en troisième ligne, qui joue très peu, qui là enchaîne les matchs et fait plutôt de bonnes performances. Mais oui, de toute façon, on le sait, hein, jusqu'à la fin du tournoi, ça va être compliqué. Surtout que là, ça s'est pas arrangé avec certains joueurs qui se sont blessés. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc voilà, ça va être des semaines compliquées.
Et samedi, le Stade se rendra à Bayonne, qui joue sa survie dans l'élite. À l'aller, les joueurs du Gomola s'étaient imposés 45-10, mais cette fois-ci, ça ne sera pas une partie de plaisir.
Non, ça va vraiment, vraiment pas être drôle. Alors, à l'aller, c'est vrai qu'il faut préciser quand même qu'il y a eu deux cartons rouges contre Bayonne. Ça avait été un match assez, au final, tronqué par ces deux cartons. Donc, c'est quand même à relativiser le score. Mais là, à Bayonne, ça va être de toute autre condition. On connaît la ferveur du peuple basque quand il y a du rugby et surtout des gros clubs comme Toulouse qui viennent. C'est Jean Daugé, c'est une ambiance qui est absolument fantastique. C'est clairement, c'est une expression bateau, je vais dire là, mais c'est le 16e homme de l'aviron. Il y a énormément de pression sur les adversaires et surtout Bayonne à domicile, c'est quand même plutôt solide, on va dire, pour un promu parce qu'ils ont perdu seulement 3 fois et quand ils ont perdu, c'est contre Clermont, Pau et Agen. Agen, c'était une circonstance particulière. Pau, c'était un match absolument horrible, pluie, boue. Bon, c'était un bon match de série comme on peut connaître dans le rugby amateur. Mais de l'autre côté, c'est souvent le MHR s'est cassé les dents là-bas. La Rochelle a perdu et Castres a perdu aussi. Donc ça va vraiment pas être évident pour les Toulousains. Là.
Ouais, on sait qu'ils sont capables justement de sublimer contre les grosses équipes. Bayonne, ils sont capables de le faire. En plus, Yannick Bru connaît bien la maison. Il aura à cœur de montrer qu'il peut gagner contre le Stade. Ils se sont relancés en plus le week-end prochain. Et puis une fois de plus, il y a des postes qui vont être vraiment problématiques pour le Stade. On pense notamment au numéro 8 où Keno s'est blessé lors de la dernière rencontre. Donc il y a des postes, le talent aussi, où voilà, ça va pas être facile.
Justement, pour venir sur Jérôme Quenon, on l'a vu toucher à la cheville contre Montpellier. Ce matin, on était à l'entraînement, on l'a vu s'entraîner un petit peu. Il n'a pas fait toute la séance,
très
donc
peu, ouais.
À savoir s'il va pouvoir être aligné. Maxime Médard, lui, ne s'est pas entraîné, donc certainement, il ne sera pas présent dans le groupe. Colby, lui, a fait tout l'entraînement, donc je pense qu'il n'y aura absolument aucun souci. Mais le problème, c'est que si on perd Quenon, qui va y avoir un numéro 8, ça va être un peu compliqué, puisque Tolofoué est avec l'équipe de France. Ça risque d'être un petit peu problématique ce poste-là pour le Stade.
En tout cas, on a hâte. Pourquoi on a hâte ? Parce que c'est l'occasion pour nous de vous dire que pour ce match, EJT Sport sera au cœur de la ferveur de Jean Daugé. Oui, on vous emmènera à Bayonne où le rugby est roi, comme le dit si bien la Peña. Hein. Une occasion d'écouter l'équipe rugby d'EJT Sport jouer à l'extérieur. On va revenir à Toulouse maintenant et plus largement à la France. Florent, des Toulousains ont brillé encore ce week-end, mais en équipe de France. Les Bleus sont venus à bout des Gallois 27-23 samedi à Cardiff. Quel match ! Et nouvelle grosse performance de qui ? De Romain Tamac.
Ouais, il a été vraiment excellent, il a très bien alterné son jeu au pied, des coups de pied de pression, des coups de pied d'occupation. Le premier essai justement d'Anthony Boucher, c'est une chandelle de Tamac qui est tapée juste à l'entrée des 22. Thomas va gêner à la réception et après bah, Boucher profite du cafouillage qu'il y a eu sur la bataille en l'air pour aller inscrire le premier essai français. Et Tamac a vraiment été une grande qualité sur ce match-là.
De toute façon, si on accepte le cas Thomas Ramos qui est un petit peu boudé, on va dire que les Toulousains sélectionnés, à l'image de l'équipe, hein, ils font des très bonnes prestations. On peut penser à François Cross aussi qui est excellent en troisième ligne. Donc voilà, des matchs super dont on n'avait plus vraiment l'habitude.
On parle du C14 Leroux, mais François Cross, c'est quand même 18 ouais, plaquages, aucun manqué. Donc c'est absolument ouais, entre lui et Cross, entre Cross et Elstad au Stade Toulousain, en général ça fait plutôt mal. Et même Marchand, d'ailleurs Julien Marchand qui était plutôt critiqué pour ses lancers en touche, il a vraiment performé sur ce secteur-là. Il a réussi toutes ses touches, aucune touche perdue. C'est plutôt bon signe, plutôt de bon augure pour l'équipe de France et pour le Stade Toulousain quand il va revenir dans la ville.
Oui, le seul point noir de la rencontre, c'est la blessure de Cyril Baye, victime d'une luxation de l'épaule droite. Il devrait être absent les 6 prochaines semaines. Heureusement pour le Stade, qui ne compte plus que 2 piliers gauches, hein, Clément Casté n'a pas été appelé en équipe de France. La liste des 28 a été dévoilée hier et compte 7 Toulousains dans la liste. Allez, on termine notre rubrique rugby avec le traditionnel point pro des deux et Colomiers toujours en haut du classement.
Ouais, ça marche fort à Colomiers. Ils occupent toujours la première place. Bon, certes, maintenant, ils sont seulement un point devant Perpignan. Les joueurs de Julien Sarotte, ils ont malheureusement été battus ce week-end à Mont-de-Marsan 16-12. Ils empochent quand même le bonus défensif. C'est grâce à ça qu'ils peuvent conserver la tête du classement. Montauban, 13e, ils ont de leur côté fait plutôt la bonne performance du week-end. Ils ont battu Grenoble 21-13. Et surtout, ils prennent 10 points d'avance sur la zone rouge. On sait que le début de saison n'a pas été facile là-bas. Donc, ça fait plutôt du bien pour le club Tarn-et-Garonnais. Quant à Carcassonne, ils ont vraiment explosé à Nevers. Ils ont perdu 34-12. C'est pas vraiment surprenant. Nevers, c'est quand même une grosse équipe de Pro D2. Et les Carcassonnais, bon, maintenant, ils sont certainement trop loin pour jouer les places d'accession. Mais ils sont quasiment sauvés pour la descente. Ça, c'est une certitude. Les deux, justement, Carcassonne et Montauban, vont se rencontrer. On a un petit derby vendredi soir. Ça risque d'être plutôt un match assez sympathique. C'est à Carcassonne que ça va se jouer. Mais vraiment, si on va parler de Colomiers, puisque c'est la grosse affiche du week-end, puisque Colomiers reçoit Oyonnax, donc c'est-à-dire que c'est le premier du classement contre le quatrième, ça va être vraiment assez important ce match pour le club de la Colombe, puisque ils ont l'occasion de mettre un concurrent direct pour la montée à 10 points. Et notamment pour les deux premières places, puisque on rappelle que maintenant en Pro D2, les deux premières places, c'est synonyme, c'est comme en top 14, de qualification directe pour les demi-finales d'accession en top 14.
Colomiers premier, donc on espère voir, pourquoi pas, hein, des stades toulousains Colomiers l'année prochaine. Pour refermer notre équipe Caramel et Chistera, on a décidé de s'intéresser à l'après-carrière des rugbymen professionnels. Certains sont toujours sur le devant de la scène, d'autres ont fait le choix de la discrétion, mais les joueurs ne sont pas les seuls artisans de cette reconversion. Vous écoutez bien EJT Sport et c'est un podcast de Florent Larios.
La retraite, vous y pensez, avec le fonds agresseur.
On s'est posé la question... Que se passe-t-il après sa carrière de rugbyman professionnel ?
C'est carton rouge, hein ?
Rouge ? Non. Non, bon, merde.
Non, pas de carton rouge, rassurez-vous. Pour connaître l'envers du décor, on a rencontré plusieurs acteurs du monde du rugby qui ont approché cette délicate reconversion. Joueurs, dirigeants ou formateurs, tous tiennent un rôle pour préparer la sortie des terrains. Retiré des stades depuis 2017, Grégory Lambollet travaille aujourd'hui dans les bureaux de Team One, une agence spécialisée dans le marketing et l'événementiel sportif. Elle a été fondée en 2008 par trois potes rugbymen, Félix Panguero, Vincent Clerc et donc Grégory Lambollet. L'ancien joueur du Stade Toulousain a bien anticipé la fin de sa carrière afin de s'assurer des ressources financières pour vivre.
On a des bons salaires quand on joue au rugby, mais ça reste pas le foot, donc il faut quand même assurer la reconversion et avoir un revenu après notre carrière. C'est souvent le danger, certains n'y pensent pas et ils arrivent à la fin et ils pensent que 6 mois avant la fin de leur carrière, de leur contrat, à savoir ce qu'ils vont faire après. Donc nous, on avait essayé d'anticiper avec ça en disant bon bah autant profiter de notre aura qu'on a pu se construire pendant toute notre carrière pour le faire fructifier dans notre nouvelle activité. Et une fois que la carrière est finie, c'est un peu tard et on a vite fait de nous oublier.
Les oubliettes, l'inconnu. Voilà ce qui terrorise les ex-dieux du stade. Certains ont connu des post-carrières délicates. Raphaël Poulain évoquait la sienne dans son livre « Quand j'étais Superman ». Contraint d'arrêter suite à de nombreuses blessures, il avait peu à peu sombré, sans argent, coupé de tout lien social. C'est pour éviter ce type de problème que des clubs restent vigilants. Au Blagnac Rugby, club semi-professionnel de Fédéral 1, les dirigeants ont créé une commission emploi composée de 8 bénévoles. Cette commission distribue le CV de joueurs et joueuses aux entreprises de la région. Sur 80 candidatures envoyées, 70 ont déjà été validées.
On a une politique de double projet. On considère que des joueurs de rugby professionnels, il y en a peu qui seront élus. Et donc, on considère que le rugby doit avoir et doit jouer ce rôle d'accompagnement sur l'extrasportif. On peut allier une vie professionnelle et étudiante active et élevée à des compétences sportives et des qualités sportives et des performances hautes.
Grâce à toutes ces actions, le club blagnacais libère ainsi des créneaux à ses rugbymen étudiants pour qu'ils puissent rattraper leurs cours et se tisser un parachute de secours pour la suite.
Qui je suis ? Les gars, qui je suis ?
Ou plutôt, qui vais-je devenir ? Ben, c'est souvent la question que se posent les rugbymen une fois leur carrière terminée. Remise en cause personnelle, réflexion sur son avenir, penser son projet est essentiel. Alors, certains préfèrent participer à des formations,
C'est le cas de Laurent Arbault, ancien ailier de l'USAP et d'autres grands clubs français, aujourd'hui préparateur physique et cofondateur de l'ITEPS à Muret. 15 années au haut niveau ne l'ont pas empêché de préparer en amont son après-carrière.
Quand je jouais à Pau et notamment à Montpellier, j'ai continué à suivre des formations. J'ai jamais arrêté en fait, c'est ce qui m'a aussi permis de me reconnecter rapidement dans la vie active parce que je sais comment on peut être coupé de la vie active quand on est joueur de rugby professionnel. C'est normal hein, qu'on soit mis dans un cocon. Moi, je n'avais jamais trop coupé parce que je faisais des formations. Et puis parce que moi, j'avais connu aussi le rugby un peu non professionnel. Donc en fait, je savais très bien qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter.
C'est pourquoi de plus en plus de pros, jeunes et moins jeunes, retournent sur les bancs de l'école. Depuis 3 ans, les joueurs peuvent suivre des formations d'entraîneurs pendant leur carrière. Des rugbymen de Castres, Pau ou Colomiers suivent justement ces formations dans la Ville Rose et sont soutenus financièrement par Proval, le syndicat des joueurs. Arbitrage vidéo. On va revenir sur la place des étudiants dans le haut niveau. Parce que, contrairement au monde semi-professionnel comme à Blagnac, dans l'univers pro, on ne tient pas vraiment le même discours. Grégory Lambollet a vu cette incompatibilité sportif-étudiant se créer au fil du temps, lui qui a commencé sa carrière en 2000.
Quand j'ai commencé le rugby, on pouvait suivre des études. Il y a des joueurs comme Jean Bouillou, Thierry Dussautoir, Yannick Josion qui ont été ingénieurs. Mais maintenant, c'est terminé. On ne peut plus suivre d'études à ce niveau-là en étant joueur de rugby professionnel. C'est impossible. Par contre, faire des formations à côté avec des horaires aménagés et tout ça, ça en a la possibilité et je pense qu'il faut le faire.
Si Laurent Arbault ne contredit pas Grégory Lambollet sur la participation à des formations, il estime pourtant qu'allier études et rugby reste faisable.
Si on a la volonté, on y arrive quand même. Je crois que c'est facile de se dire que c'est compliqué. Celui qui veut vraiment, à un moment donné, il va toujours trouver les moyens d'eux. Alors bien sûr, sur une carrière professionnelle et suivre des études de haut niveau, c'est jamais facile. Alors après, le cursus, des fois, il y a la possibilité de le faire plutôt en 5-6 ans, plutôt en 3 ans. Donc il y a des aménagements d'horaires quand même qui sont faisables. Puis ça permet aussi, à un moment donné, de sortir un peu de ce train-train rugbystique et de sortir de cette bulle qui, des fois, quand elle explose, ça fait mal.
En somme, comme un bon bouchon sur le terrain.
Ouh, ce caramel sur Jules Puissant.
Ce 21 mars 2015, on se souvient que l'anglais Courtney Laws avait bien préparé son plaquage sur l'ouvreur tricolore. Préparer, c'est justement la chose à faire pour une reconversion. Et oui, tout le monde n'a pas la chance de devenir consultant pour la télévision.
Florent Arnaud, on vous dit merci et on reçoit Maude, cette fois pour nous parler un peu de l'actualité sportive en général. Bonjour Maude, alors que s'est-il passé sur la planète sport ce week-end ?
Eh bien Geoffroy, on a beaucoup parlé de la victoire du 15 de France face aux Gallois lors des 6 nations, beaucoup plus que de la victoire de l'équipe de France féminine, qui l'a aussi emportée sur le pays de Galles, et avec brio, 50-0. Les Françaises se sont offertes 8 essais, qui les placent en deuxième position du classement, derrière les Anglaises. On reste dans la sphère rugby avec une interrogation. Bono aurait-il porté malheur à l'Irlande, battue 24-12 dimanche face à l'Angleterre ? C'est ce que pensent certains supporters irlandais, car le chanteur de U2 s'était rendu à un entraînement de l'équipe irlandaise quelques jours avant le match et avait servi de la soupe à Jonathan Sexton, des photos en attestent. Or, l'ancien joueur du Racing 92 est passé complètement à côté de son match dimanche. Les supporters irlandais se sont donc servis de Bono comme d'un bouc émissaire pour faire passer la défaite avec humour.
C'est tout à leur honneur. Et ce week-end, Maude, la France a aussi brillé en biathlon.
Et oui Gauthier, samedi, les Français ont été sacrés champions du monde en relais hommes. Cela faisait 19 ans que ça n'était pas arrivé. Et c'était l'un des seuls titres qui manquait au palmarès de Martin Fourcade. Une médaille collective qui lui a fait verser des larmes d'émotion lors de l'interview d'après-course. Et le lendemain, lors de la Mastart, Quentin Fillon-Maillet a décroché la médaille d'argent et Émilien Jacquelin la médaille de bronze. Côté local, les Spacers se sont inclinés vendredi en volée face aux Nantais qui l'ont emporté 3-7 à 2. Les volleyeurs toulousains joueront vendredi contre Tours. Les basketteuses toulousaines du TMB ont elles aussi essuyé une défaite face à Angers, 56 à 72. Les deux équipes sont toujours au coude à coude dans leur ligue et Toulouse est à la 4e place. On termine sur une bonne nouvelle, en saut à la perche. Lors du All-Star Perche à Clermont-Ferrand, la révélation n'a pas été le jeune Suédois Armand Duplantis, qui a quand même réalisé un saut à 6m01. La révélation, ça a été Renaud Lavillény. En franchissant 5m94, il a montré qu'il était toujours en place et surtout qu'il pouvait prétendre à un podium pour les JO de Tokyo.
C'était le Flash Sport, on remercie Maud et puis également nos duos de techniciens hors pair, Lise Dussault, Adrien Marchand. Quant à toi Gauthier, merci de m'avoir accompagné à la présentation ce soir.
Avec plaisir Geoffroy, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. On vous souhaite une excellente soirée.
Salut à tous.